Il est 7h.
Vraiment, une fermeture supplémentaire, ce serait le coup de grâce de la profession. Mais il faut qu'ils nous entendent aussi, bon sang. Je le dis, je le répète, on n'est pas plus dangereux que d'autres secteurs.
Colère et angoisse du chef Etchebest et de tous les restaurateurs. Ils appréhendent les mesures qu'Olivier Véran pourrait annoncer ce soir pour plusieurs grandes villes et notamment Paris. Une éclaircie dans un ciel économique plutôt sombre, PSA Sochaux va recruter 250 intérimaires. Objectif, revenir à la même production qu'avant le Covid. Nous serons à Sochaux avec Arthur Elmbaché. Sommet extraordinaire de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 vont notamment évoquer le plan de relance de 750 milliards d'euros. Problème, le Parlement européen fait de la résistance. Dans ce journal, l'opération Octobre Rose pour sensibiliser au cancer du sein. Malgré le contexte, les femmes ne doivent surtout pas négliger le dépistage.
Cette année, du fait de la crise sanitaire, il y a un retard considérable dans le diagnostic des cancers du sein. Cela veut dire, hélas, des vies de femmes perdues.
Et puis un seul Français en lice à Roland-Garros, et c'est un inconnu, Hugo Gaston, 20 ans, 239e mondial. Son adversaire au troisième tour, ce sera du costaud, le Suisse Wawrinka.
Juste après ce journal, Total et les grands pétroliers investissent massivement dans le renouvelable, l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'assaillant des anciens locaux de Charlie, acclamé dans son village au Pakistan, le regard international de Vincent Hervouette. Pas de sanctions contre Neymar ni Alvaro. La pire décision possible pour Virginie Fulpin, c'est l'édito sport avant notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La concertation avant les restrictions. Jean Castex discute ce matin avec les maires de 5 grandes villes. Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse. Quelles peuvent être les mesures les plus efficaces face à l'aggravation de l'épidémie?
Et parmi les professions qui s'inquiètent le plus de ce risque qui risque de leur tomber sur la tête, les restaurateurs bien sûr. Écoutez le chef médiatique Philippe Etchebest. Il se fait leur porte-voix.
On est pendu aux lèvres du gouvernement, des ministres, pour savoir ce qu'on va faire. Vraiment, une fermeture supplémentaire, ce serait le coup de grâce de la profession. Mais il faut qu'ils nous entendent aussi, bon sang, je le dis, je le répète, on n'est pas plus dangereux que d'autres secteurs. On a des mesures restrictives d'hygiène que nous avons mis en place. Je vois des photos des gens dans le métro, c'est juste incroyable. Incroyable comment les gens sont entassés les uns sur les autres. Il y a plus de possibilités d'attraper la Covid à ce moment-là que dans nos établissements. Je ne cesserai de me battre malgré tout parce qu'on doit rester debout.
Il se bat, Philippe Etchebest, au micro Europe 1 de Pierre Arbulot, et il appelle à une opération. Faites du bruit pour nous aider à ne pas mourir en silence. Les personnels des restaurants sont appelés à se faire entendre demain à 11h45 dans toute la France.
Les restaurateurs, mais aussi tous les habitants des grandes villes seront sans doute suspendus au propos du ministre de la Santé, Olivier Véran. Nouvelle conférence de presse ce soir à 18h.
Oui, il devrait faire le point sur les fameux indicateurs, signe du passage en zone d'alerte maximale. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Hélène.
La grande crainte, c'est le rouge, notamment à Paris, mais pas seulement.
Oui, dans la capitale, les trois indicateurs qui font basculer une ville dans la zone d'alerte maximale sont dans le rouge. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants dans la population générale et chez les plus de 65 ans. Et enfin, le taux d'occupation des lits en réanimation. Est-ce que les bars et les restaurants vont pour autant fermer ? Pas forcément, me précise un conseiller d'Olivier Véran. L'idée, ce serait peut-être de laisser la main à la mairie de Paris dans un premier temps, voir si les mesures déjà prises, le couvre-feu à 22h dans les bars notamment, ont une incidence sur l'évolution de l'épidémie. Et si ça ne marche pas, le gouvernement reprendrait la main pour imposer des mesures plus fortes. On notera juste que 2 indicateurs sur 3 à Paris dépassent les taux marseillais. Donc si aucune mesure contraignante n'est prise ce soir, certains élus des Bouches-du-Rhône pourraient ne pas comprendre ce deux poids, deux mesures. Paris inquiète les autorités de santé, mais pas seulement. Il y a aussi Lyon, Lille, Toulouse et Grenoble. Dans ces 4 villes, les taux d'incidence sont au-dessus du seuil d'alerte, mais pas les taux d'occupation pour les lits en réanimation. Et là aussi, même système qu'à Paris, les villes choisiront leurs nouvelles restrictions. Et si ça ne suffit pas pour inverser la courbe, alors le gouvernement serrera lui-même la vis.
Victor Delande.
On ne compte plus les secteurs qui s'inquiètent de leur avenir, les magasins qui mettent la clé sous la porte, les plans sociaux. Ce matin, malgré tout, une bonne nouvelle qui nous vient du groupe PSA.
Oui, pour son usine de Sochaux, il recrute 250 intérimaires pour relancer le VSD, en clair le travail, les vendredis, samedi, dimanche. À partir de novembre, la production, ce sera donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans cette usine emblématique du groupe automobile. Bonjour Arthur Elmbaché, vous êtes
Bonjour.
À Sochaux pour Europe 1. Le site retrouve donc son activité d'avant le Covid.
Et c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. C'est vrai que ça charbonne bien en ce moment, nous disent les ouvriers ici à Sochaux, pas mécontents de la santé insolente de leur usine.
Ah bah oui, je suis fier, oui. Ce qui se passe dans le PSA, quoi, c'est chouette, quoi. Je suis content, c'est très bien. Surtout après la crise, quoi.
Tant mieux, ça va faire marcher la région, c'est bien.
Parce qu'ailleurs, c'est moins rose, nous dit Éric Pelletier de Force Ouvrière. Regardez, à 20 km d'ici, par exemple, General Electric à Belfort.
On voit quand même bien qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très compliqué aujourd'hui, où les salariés, ben, ils risquent dès demain de se retrouver dans la rue. Hein. Donc voilà, c'est quand même une fierté d'avoir effectivement aujourd'hui du boulot. C'est quand même une fierté d'avoir des produits qu'ils vendent.
Alors pourquoi ça marche? Écoutez la réponse du directeur de la production de l'usine, Christophe Montavon.
On a la chance de fabriquer sur le site de Sochaux deux véhicules qui ont été véhicules de l'année, la Peugeot 308 et plus dernièrement la 3008, qui est actuellement un succès qui ne se dément pas. Maintenant, c'est vrai que revenir six mois après à un niveau de production qui est équivalent à celui qu'on avait, on n'aurait pas misé là-dessus aussi rapidement, évidemment.
Dans les semaines qui viennent, pas loin de 9000 personnes travailleront ici à Sochaux à la fabrication de 2100 voitures chaque jour.
Arthur Elmbaché à Sochaux pour Europe 1. 8 à 11 millions de Français aident un proche âgé, malade ou handicapé. À partir d'aujourd'hui, ils pourront demander un congé de 3 mois indemnisé. On va y revenir dans le journal de 7h30. Et puis, entrée en vigueur de la hausse des tarifs réglementés du gaz, plus 4,7%.
7h06 sur Europe 1. Les 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet européen extraordinaire, le premier depuis leur rencontre marathon au mois de juillet.
Ils s'étaient mis d'accord sur un plan de relance historique et solidaire de 750 milliards d'euros, plan qui ne s'est toujours pas concrétisé. Isabelle Horry, tout ça à cause de la résistance du Parlement européen.
Et oui, c'est plus compliqué que prévu. Souvenez-vous, il avait fallu 4 jours et 4 nuits aux 27 chefs d'État pour se mettre d'accord au forceps sur le plan de relance et le budget européen pour les 7 prochaines années. Chaque mot avait été pesé. Mais voilà, ça ce n'est pas le problème du Parlement européen. Lui doit donner son feu vert à certains aspects du paquet et il veut des améliorations, explique l'eurodéputé macroniste Valérie Hayer.
On veut plus d'argent sur la santé, on veut plus d'argent sur Erasmus, sur la recherche, sur la défense par exemple. Le Parlement européen doit jouer son rôle pour améliorer ce qui a été voté par les chefs d'État et de gouvernement. On est dans un processus classique. C'est tout à fait normal que le Parlement européen veuille obtenir plus. C'est tout l'enjeu des négociations.
Sauf que si un paramètre de l'accord de juillet change, tout risque de s'écrouler. Exemple, la Hongrie et la Pologne menacent déjà de mettre leur veto aux 750 milliards de relance si les élus exigent plus de contrôle sur l'état de droit. Tout se tient par la barbichette, résume un diplomate. Un retard semble inévitable. Il aura des conséquences sur la reprise économique, s'inquiète la présidence allemande de l'Union. Les premiers versements de l'argent européen ne sont pas prévus avant au mieux l'été prochain.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, sommet qui se penchera également sur les tensions en Méditerranée entre la Turquie et deux États européens, la Grèce et Chypre. Aux États-Unis, toujours des remous autour du débat chaotique entre Donald Trump et Joe Biden. Le modérateur reconnaît avoir ressenti du désespoir lors des échanges sous haute tension entre les deux candidats. De nouvelles mesures seront prises pour les deux prochains débats. Pourquoi pas couper le micro de l'un quand l'autre parle ?
Octobre rose, l'opération commence aujourd'hui. C'est comme tous les ans pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, plus que jamais en cette période où on ne parle que du Covid.
Le cancer du sein, c'est le plus fréquent, le plus mortel. Plus de 12 000 décès par an. Le dépistage a déjà permis de faire reculer cette mortalité de plus de 20%. Le professeur Axel Kahn préside la Ligue contre le cancer. Il appelle les femmes à ne pas négliger leur mammographie de contrôle.
Cette année, du fait de la crise sanitaire de la Covid, il y a un retard considérable dans le diagnostic des cancers en général et plus particulièrement des cancers du sein. Durant cette période de confinement, sur les 3 mois, il n'y a eu que la moitié des diagnostics de cancer auxquels on s'attendait. Par conséquent, alors que des retards de diagnostic de 2-3 mois ne doivent pas porter à conséquence globalement, maintenant on en est sans doute dans certains cas à des retards de 5-6 mois et alors là, il y a lieu d'être inquiet parce que cela doit entraîner des chances perdues, cela veut dire hélas, possiblement, sûrement, des vies de femmes perdues.
Le professeur Axel Kahn au micro d'Anne Le Gall. La piste criminelle se confirme dans l'enquête sur la mort de Victorine, 18 ans, à Villefontaine, en Isère. L'autopsie évoque un décès par noyade, mais ce n'est pas un accident. La famille organise une marche blanche dimanche après-midi.
À Roland-Garros à présent, rien ne va plus pour les Français, il n'en reste plus qu'un, un seul dans le tableau masculin, et ce n'est pas celui qu'on attendait.
Oui, il s'appelle Hugo Gaston, il a tout juste 20 ans, il est qualifié pour le 3e tour, il ne joue là que son 2e grand chelem, Axel May nous le présente.
Il a l'insouciance de ses 20 ans et Hugo Gaston ne se contente pas de découvrir Roland-Garros. Il gagne. Hier, c'est tout de même le japonais Nishioka, classé 52e mondial, qu'il s'est offert. Le voici dernier français en lice dans le tableau masculin avec un joueur dont il s'inspire.
Je m'inspire de Nadal, forcément, même si on n'a pas le même style de jeu. Dans tout ce qui est attitude ou quoi, j'essaye de prendre exemple sur lui. Après, j'essaye de prendre du plaisir, m'amuser sur le terrain et... Et voilà.
Avec son 1m73, Hugo Gaston est petit pour un joueur de tennis, mais possède une belle palette de coups avec un joli toucher de balle, affichant la cool attitude et a un drôle de service puisqu'il ne fait pas rebondir sa balle avant de la frapper, comme l'explique le directeur technique national Pierre Chéret.
C'est sa façon d'être. Hein. Donc son rituel à lui, c'est pas de faire rebondir 10 fois la balle avant de servir. Et il trouve son relâchement aussi comme ça.
Au prochain tour, le jeune Toulousain, 239e mondial, affrontera un ancien vainqueur de Roland-Garros, le Suisse Stan Wawrinka. Hugo Gaston précise... J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je vais tout faire pour gagner.
Voilà, et chez les dames, Caroline Garcia s'est qualifiée hier soir pour le 3e tour. 3 autres Françaises vont tenter de la rejoindre aujourd'hui, Alizée Cornet, Clara Burel et Fiona Ferro. Sachez enfin que la tempête Alex arrive sur la France la nuit prochaine. Laurent Cabrol en parlait. 5 départements de l'Ouest viennent d'être placés en vigilance orange pour vents violents et pluies inondations. Loire-Atlantique, Côte d'Armor, Morbihan, Finistère et Ille-et-Vilaine.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.